sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La séance est ouverte. Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, monsieur le président de section du Conseil d'État, messieurs les conseillers auprès du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, monsieur le président du CRIF, monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, mesdames et messieurs les dirigeants des établissements de recherche et d'enseignement, monsieur le chancelier de l'Institut de France, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur et madame les ambassadeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, et j'ajouterai chers élèves et thésards qui sont dans la salle. Il est bien sûr presque impossible de prendre la parole aujourd'hui en étant assuré de se hausser à la hauteur des événements. Si notre compagnie ne revendique pas nécessairement d'être la voix de l'histoire, elle se doit à tout le moins d'être fidèle à elle-même et à son règlement. Celui-ci porte, parmi au fond peu d'obligations, celle de tenir la séance de ce jour. Nous la tenons donc, sans hésitation, mais sans le plaisir qui aurait dû l'accompagner, par respect avant tout de l'état de droit, qui est notre seul rempart, celui-là même que la barbarie voudrait nous convaincre d'abattre. Et pour cela, je veux le croire, la majorité de nos concitoyens accepterait de mourir. Le président de la République lui-même, retenu au Congrès de Versailles, informé de cette séance de rentrée, a tenu à faire savoir qu'il était reconnaissant à l'Académie de participer à sa façon et par ses travaux au deuil national. La coutume, en sa sagesse, veut que j'évoque maintenant la mémoire des confrères qui nous ont quittés. Parmi les membres titulaires, Michel Albert, qui fut notre secrétaire perpétuel de 2005 à 2011, Pierre Bauchet, Bernard d'Espagna, parmi les membres associés, Roland Mortier, membre également de l'Académie royale de Belgique, parmi les correspondants, Claudio Cesa, Alexandre Lamfalussi, Jean-Louis Crémieux-Brillac, Jacques Parizeau, Jaako Intika, Stanley Hoffman et François Dagonier. Encore sont-ils allés au bout de leur âge, ce qui est une grâce. Mais il y a deux jours, des jeunes gens qui buvaient un verre en terrasse, qui avaient décidé de dîner dehors ou d'aller à un concert, sont tombés avant d'aller au bout de leur âge. À l'heure où je parle, ils n'ont pas encore tous un nom. C'est en mémoire d'eux que je vous demande d'observer une minute de silence. Cependant, la vie doit reprendre son cours. Pourquoi avoir choisi ce sujet, la religion, pour nos conférences du lundi de l'année 2015 ? Eh bien, essentiellement, pour nous permettre de mieux comprendre l'évolution religieuse de ce temps. Notre époque, à cet égard, est traversée de courants et de remous divers. Au fond, elle raconte l'histoire de sociétés, les nôtres, qui avait prévu, qui avait promis, démontré scientifiquement la disparition des religions, qui tente constamment de les effacer et qui les voit ressurgir par toutes sortes de marchés noirs. Et l'histoire, c'est l'histoire des chaos spirituels qu'occasionne ce surprenant destin. Je vous propose de raconter cette histoire en 9 étapes, chaque étape étant représentée par quelques-uns de nos conférenciers. Première étape. Depuis les Lumières, essentiellement au XIXe siècle, les Occidentaux pensent que la religion disparaîtra avec l'âge de la maturité humaine. Nous le savons, le XIXe siècle entier est rempli de cette certitude. L'âge de la religion n'était qu'une étape de l'histoire, bientôt ou déjà révolue, et la science remplacera la religion, la connaissance remplacera la foi, et les certitudes remplaceront les préjugés. Karl Marx n'est pas le seul à penser ainsi. Il n'est que le centre, peut-être en partie l'initiateur d'ailleurs, d'une nébuleuse immense. L'Occident est le théâtre de ce que Jaspers appelait, je le cite, « le déraillement de la modernité » comme « spéculation immanentiste », ce sont ces mots. C'est-à-dire que sous le prétexte que la transcendance serait rêve ou spéculation, eh bien on décrète que l'immanence est la seule réalité. Or, ceci est encore spéculation. L'immanence est un choix, comme la transcendance. Certaines cultures, notamment asiatiques, font ce choix de l'immanence. Eh bien, ce n'est pourtant pas le nôtre. Si le propre de l'homme, c'est ce que Yves Coppens appelle l'âme, c'est-à-dire que l'homme a la responsabilité du sens à donner à son existence, alors notre âme, à nous autres occidentaux, est tournée vers le monothéisme. Et pour nous, l'ordre de l'existence humaine est quête de transcendance, comme on le voit à partir de Moïse et de Platon. Pour nous, réduire le monde à l'immanence s'apparente aussitôt à une révolte contre l'être. Pourtant, le déraillement immanentiste, je reprends le mot de Jaspers, de la modernité, ne se contente pas de récuser le monothéisme de la transcendance. Il récuse toute religion comme appel de sens, et attend de remplacer la religion par la science. C'est l'annonce d'un séisme anthropologique. L'étude de l'athéisme nous permet de comprendre pourquoi ce séisme ne se produira pas. Dominique Folscheid nous décrit l'athéisme comme une invention des monothéismes occidentaux. Certaines civilisations, ainsi celle de l'Inde, n'ont même pas de mot pour cela, pour l'athéisme. Pourquoi ? Eh bien parce que là-bas, le monde est pétri de divins. L'athéisme, comme négation de Dieu, n'a aucun sens dans ce type de civilisation. On ne se défait que de ce qui est extérieur à soi. Et seul le Dieu des monothéismes est extérieur à l'homme. Pour les monothéismes, seul Dieu est divin. Dominique Folscheid nous dit, au lieu que l'amour soit un Dieu, c'est Dieu qui est amour. La chose, la différence est d'importance. La conception animiste ou panthéiste du cosmos, qui existe chez tous les peuples, est remplacée chez nous par la création. Le concept de création fonde un monde désacralisé, dédivinisé, profane. C'est ce qu'on a appelé le désenchantement du monde depuis Weber. L'homme, dès lors, est un vivant hors de Dieu, c'est Lévinas qui parle, vivant chez soi, expression de Lévinas. On peut presque dire que son état naturel, c'est l'athéisme. Et s'il adhère à ce Dieu extérieur, c'est par la foi. Il peut se refuser à Dieu, il peut le nier. Lévinas en concluait que, je le cite, « c'est certainement une grande gloire pour le Créateur que d'avoir mis sur pied un être capable d'athéisme. » Les religions juives et chrétiennes ont donc instauré une vision du monde qui permet singulièrement l'apparition de l'athéisme. L'idée de personne, l'importance conférée à la conscience individuelle, à la liberté humaine, rendent possible le retournement de l'esprit contre ce Dieu même qui ouvre les possibles. C'est pourquoi Marcel Gaucher nous parle d'une religion de sortie de la religion. Par cette singularité même qui nous rend capables d'athéisme, il est donc entendu en Occident, et la littérature du XIXe et du XXe siècle en témoigne, que nous avancerions rapidement, grâce à la science, vers la fin des religions et leur complète inutilité. Deuxième étape, apparaissent alors des religions séculières, rapidement totalitaires. La question religieuse récusée, considérée comme dépassée, se redéploie aussitôt sous des aspects monstrueux. Thierry Gontier nous montre comment Éric Voegelin décrit le totalitarisme, je cite, « une expérience religieuse subvertie ». Le surgissement de ces religions politiques, c'est le mot employé, qui était censé abolir la religion, en marque au contraire l'exigence et la permanence, puisque elles réinstaurent ce qu'elles abolissent et elles n'en sont finalement que des formes grimaçantes. Comme Maritain, Vialatou, De Lubac, Bergson ou Simone Veil, Voegelin pense que l'on ne peut poser correctement la question des totalitarismes contemporains qu'en les référant à la crise religieuse de l'Occident moderne. Les représentations de l'Apocalypse et de la rédemption à venir, issues des religions millénaires, ont été littéralement marouflées pour donner le troisième règne de Comte, la troisième Rome de Mussolini ou encore le troisième Reich hitlérien. Le processus de sécularisation comme « décapitation de Dieu », les mots de Voegelin, laisse place à la foi en les Lumières, source de rédemption, acquise par la force et par la terreur. Les totalitarismes déifient ce qui reste après la mort de Dieu, c'est-à-dire l'homme futur. Nous savons que la foi et l'espérance caractérisaient les adeptes nazis ou communistes. Nous savons que l'homme nouveau de l'Évangile, c'est une expression évangélique, était devenu l'homme nouveau de Tchernychevski et de Lénine. Nous savons que le Parti communiste ressemblait à une église avec ses pompes, ses cardinaux, la figure tutélaire de son pape, le premier secrétaire. Nous savons que ses dogmes immanents avaient leur rite, leur catéchisme, leur martyr, ainsi que leur grand-messe. Comme le dit Dominique Fottscheid, je cite, « impossible de ne pas voir dans la momie de Lénine une version kitsch du culte des reliques ». Ni dans la figure du Ché, un calque du Christ crucifié. Il reste que les expériences totalitaires, par le vide existentiel qu'elles laissent, et que d'ailleurs elles tentent de combler grâce à des artifices, démontrent l'existence même de ce qu'elles révoquent. Il faut bien que la quête du sens soit inscrite dans la structure de l'existence humaine, puisqu'elle est, consciemment ou non, remplacée dès que niée. C'est bien là d'ailleurs ce que nous indiquent à la fois les paléontologues et les historiens des cultures extérieures, autrement dit, les connaisseurs du temps et les connaisseurs de l'espace. Yves Coppens affirme que l'homme s'extirpe de sa condition animale, devient un humain à part entière quand il prend conscience du tragique de son destin. On considère que les premières tombes ritualisées marquent l'apparition des premiers humains. La présence de la religion est la marque caractéristique de notre espèce, ce qui permet de la définir. On pourrait dire que l'humain, c'est cet animal doté d'une âme ou d'une conscience responsable qui l'incite à poser la question de l'existence et donc à devenir un être de symbole, c'est-à-dire un être religieux. La thèse du paléontologue est d'ailleurs corroborée par les descriptions des peuples, même les plus éloignés de notre culture, dont on sait que pas un seul n'ignore le sentiment religieux, fût-il très différent de ce que nous connaissons ici. Vincent Gossart nous présente un panorama des religions en Chine qui manifeste clairement à quel point, dans ces cultures de l'Orient extrême qui représentent littéralement l'autre de l'Europe, comme disait Simon Lay, le souci religieux n'est jamais, au grand jamais, ni écarté, ni oublié. Il semble bien, par conséquent, que les religions soient des états plutôt que des étapes, des structures existentielles plutôt que des moments. Ce qui nous en convainc, c'est précisément le résultat des efforts titanesques qui ont été faits pour démontrer le contraire et qui n'ont abouti à rien qu'à un retour à la case départ. À ce stade, je regrette de n'avoir pu inviter un spécialiste de Mircea Eliade qui avait décrit bien avant son épilogue le processus de ce monumental égarement. Troisième étape, le christianisme classique cesse d'être majoritaire, son autorité pose question, il subit des remous. L'annonce de la mort de Dieu et même de la disparition de la religion en tant que question se conjugue avec la montée de l'individualisme pour susciter un nouveau paysage de questionnement dans des contrées traditionnellement judéo-chrétiennes. La nostalgie de la chrétienté en train de disparaître, en même temps que la récusation de l'autorité religieuse, ces deux aspects de l'esprit occidental européen sont déjà vivaces il y a 100 ans, par exemple dans l'œuvre de Charles Péguy. Le grand poète de Jeanne d'Arc et de la France nous décrit un monde d'hommes et d'anges mêlés. Un monde qui n'existe plus. Si vous voulez, le monde de l'Angélus de Millet. Et en même temps, il met en cause les dogmes de ses pères. Jean-Noël Dumont nous dit, nous sommes en 1897, Péguy a 24 ans, et il a rejeté la foi de son enfance. Pourquoi ? Pourquoi l'a-t-il rejeté ? Eh bien, précisément, par horreur de la pensée de l'enfer. Il écrit, « Jamais nous ne dirons oui à la supposition, à la proposition de cette mort vivante. Une éternité de mort vivante est une inspiration perverse, inverse. » De damnés, le jeune Péguy ne veut plus connaître, dit-il, que, je le cite, « les damnés de la terre pour lesquels au moins on peut utilement se battre ». On ne peut pas dénier à Péguy sa spiritualité, ni son sens de la religion, mais il n'en exprime pas moins la volonté si contemporaine de valoriser le monde immanent, le monde social, au sein même de la religion qu'il défend. La chrétienté s'affaiblit et même s'efface, si l'on entend bien par là, non pas la religion elle-même, mais la culture structurée et inspirée par cette religion. Dans nos régions, où le christianisme inspirait les lois, commandait les comportements, fondait les coutumes, légitimait les modèles sociaux et politiques, définissait le sacré. Tout cela passe en d'autres mains, d'ailleurs diverses. Emmanuel Mounier en avait fait un livre au titre bien frappé « Feu la chrétienté ». Thierry Umbrecht se demande si la chrétienté est bien finie ou bien alors si elle risque de rater sa sortie. Ou encore, que peuvent et doivent faire des chrétiens dépossédés de la chrétienté ? Comment se comporter face à la perte d'influence ? La réduction drastique des effectifs et, ce qui est évidemment bien plus important, la perte du sens de la vérité. Les chrétiens d'aujourd'hui, qui ont compris pourquoi ils étaient marginalisés et ont pris conscience de leurs erreurs passées, vont devoir acquérir une nouvelle place dans la société. Ce ne sera plus une place dominante, mais ce devra être une place essentielle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le judéo-christianisme est la matrice de la culture européenne occidentale. Parce que c'est lui qui inspire les politiques de liberté, la sécularisation, en France, même la laïcité. Et on ne peut s'en affranchir totalement sans se défaire de tout ce qui fait notre fierté. C'est un dilemme cornélien. On n'efface pas la mémoire sans effacer aussi les conquêtes. Je vais parler après de l'effacement de la mémoire. Pourtant, les chrétiens se sont trop habitués à courber les chines sous les quolibets. Il y a peu de mois, la revue Commentaire a publié un beau texte de Kowakowski. Je remercie Alain Besançon. C'est Alain Besançon qui l'avait exhumé. Et ce texte s'appelle « Jésus ridicule ». Entendez, « Jésus ridiculisé ». Aussi, Thierry Umbrecht espère-t-il des chrétiens qu'ils aient le courage de se dire tels ? Et l'approfondissement à nouveau frais de ce qui les constitue. C'est en osant défendre leur propre religion, et non pas en la laissant lâchement démolir, qu'ils seront les partenaires de la culture et non pas ses ilotes. Les catholiques devraient alors, au lieu de balancer entre lamentation et silence honteux devant l'état de minorité où ils sont tombés, adopter le comportement d'une minorité active. C'est une situation historique connue, cela s'apprend. Les juifs et les protestants pourraient sans doute leur porter conseil. Dans une situation de minorité, comprise avec intelligence et fierté, peut-être même que l'on gagnerait en vertu. C'est du moins ce que je crois. Les dogmes et les manières de voir des églises se trouvent déstabilisés par les courants majoritaires qui les somment de choisir entre la marginalisation et l'indéfinie compromission. Cette période de remise en cause et d'instabilité fragilise les appareils de gouvernance, l'Église, avec ses pompes, mais aussi avec ses œuvres. Philippe Levillain constate avec intérêt et inquiétude l'apparition d'une forme de polysynodalité qui laisse au pape la loi ou le principe, mais permet aux conférences épiscopales, voire, dit-il, aux évêques, d'exercer leur discernement pour transformer ou non les lois en décrets. Quatrième étape. Du même coup, le rapport religion-politique se réorganise. Depuis Tocqueville, l'époque post-révolutionnaire a repensé les liens entre religion et politique. Agnès Antoine nous montrera comment, pour l'auteur de La démocratie en Amérique, la religion joue un rôle essentiel dans la constance et la continuité des régimes de liberté. Vous vous souvenez évidemment de l'affirmation célèbre de Tocqueville : quand un peuple veut être libre, il faut qu'il croie, et s'il ne veut pas croire, il faut qu'il serve. On se souvient que depuis Machiavel, et d'ailleurs l'Église l'avait copieusement détesté pour cette raison, un fort courant tient à la religion pour une contribution nécessaire au lien social et à la morale sociale, même si elle demeure par ailleurs un aimable conte. Autrement dit, elle est un secours pour les gouvernants qui permettent de tenir les gouvernés tranquilles, sans devoir sans cesse les redresser par la force. C'est plus commode. On sait que cette religion, dite sociologique, a parcouru les siècles pour venir littéralement mourir entre les mains de Maurras et ses disciples, après lesquels elle va produire ses conséquences naturelles. Une religion sociologique contribue à tuer dans la réalité la religion qu'elle a déjà tuée symboliquement en l'instrumentalisant, en faisant d'elle un simple outil. Mais l'argument de Tocqueville est beaucoup plus fin que toutes ces ruses machiavélo-maurassiennes. Il montre comment la présence de la religion monothéiste transcendante sur ce continent fonde littéralement la liberté et la garantie. C'est pourquoi, croyant ou pas, l'auteur de La démocratie en Amérique défend la religion de ses pairs, au moins pour la grandeur de la civilisation qu'elle crée, structure, soutient. Nous n'avons pas fini de nous poser ce genre de questions. En quoi l'effacement de la chrétienté risque-t-il de remettre en cause les justifications de ce à quoi nous tenons, la liberté politique, la conscience personnelle, etc. Jean Bobéreau reprend l'analyse du conflit des deux Frances qui oppose d'une part la France fille aînée de l'Église et d'autre part la France fille aînée de la Révolution. Il rappelle qu'effectuant en 2004 le bilan d'un siècle de laïcité française, le Conseil d'État a affirmé que la loi de 1905 se situe dans la filiation de John Locke. Pourtant, les Français la voient plutôt fille de Voltaire. La laïcité, est-ce que c'est organiser la liberté ou est-ce que c'est écraser l'infâme ? En France, beaucoup voient la laïcité comme un bannissement de la religion. Il est clair que la situation dès lors marginale de la religion réclame de repenser la laïcité. Bernard Bourdin confirme, pour ainsi dire, les anciennes affirmations de Peggy. Le christianisme doit s'installer dans l'histoire humaine pour attendre le royaume de Dieu. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque la séparation des ordres, qui a été instruite à l'origine par cette religion, aboutit à l'exclusion de la religion. Mais le modèle de 1905, qui sépare la sphère privée dans laquelle serait contenue la religion et la sphère publique qui serait l'apanage du politique, ne fonctionne plus. Et c'est peut-être l'irruption de l'islam dans notre monde qui nous le montre. Ni la laïcité, ni la République ne parviennent plus à se définir. C'est qu'il n'est pas possible, c'est qu'il n'est plus possible peut-être, de séparer entièrement la sphère publique de la religion. Notre sphère publique est imprégnée de chrétienté, et c'est bien pourquoi le niqab offense nos lois. Un nouveau paradigme des relations entre les églises et l'État est donc nécessaire. Quant aux chrétiens, il leur revient d'inventer un nouveau civisme qui tiendrait compte de la connivence, si mal connue, entre le christianisme et la démocratie, car, je cite Bernard Bourdin, et c'est très important, l'un et l'autre, christianisme et la démocratie, sont marqués par le règne de l'incertitude. Et c'est cela qui nous fonde, le règne de l'incertitude. Nous avons en face de nous en ce moment des ennemis, il faut bien le dire, hein, qui sont des gens qui ne connaissent pas le règne de l'incertitude. Voilà toute la question au fond. Cinquième étape. Des branches du christianisme se développent, plus adaptées au temps présent, et la religion traditionnelle se modernise. Dieu se porte bien, nous dit Sébastien Fatt en parlant de l'évangélisme. L'islam n'est pas seul à progresser, même s'il occupe médiatiquement une place privilégiée. Le christianisme reste la plus grande religion du monde, surtout grâce à des expressions nouvelles ou renouvelées comme le protestantisme évangélique. Il s'agit d'une adaptation, au moins dans la forme, mais pas seulement, aux exigences de l'époque, par l'individualisation et par l'association volontaire. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle. Ce sont des églises complètement adaptées au temps présent. Elles se sont débarrassées du niveau national pour ne compter que sur le local, parfois un peu sur le global. Face à des états-providence parfois défaillants, elles deviennent des églises-providence ou redeviennent des églises-providence. Un chrétien sur quatre dans le monde est évangélique. Il y a 62 millions d'évangéliques en Chine, laquelle nourrit des projets missionnaires à sa mesure, c'est-à-dire gigantesques. Le déploiement de cette religion est considérable sur tous les continents. Le jour n'est pas venu où les humains ne se poseront plus les questions existentielles. Qu'en est-il de l'orthodoxie ? L'une des questions qui se posent à la religion orthodoxe aujourd'hui est celle des relations avec la modernité. Il suffit de lire la Déclaration des droits de l'homme du patriarche Kirill pour voir à quel point la vision de certaines de ces églises est éloignée de l'évolution actuelle de nos sociétés. Il est probable que l'orthodoxie demeure attachée à des formes d'enracinement que les églises catholiques et protestantes ont aujourd'hui dépassées ou reniées. Ça dépend comment on voit les choses. Et par ailleurs, c'est peut-être bien la religion orthodoxe qui réinventera le personnalisme dont l'individualisme triomphant a besoin pour se donner enfin des limites. J'ignore ce que Bertrand Vergely nous dira sur la question. Les nouveaux courants qui apparaissent dans l'ère occidentale témoignent des inquiétudes du temps et de la nécessité d'inscrire les religions traditionnelles dans le fil des bouleversements inouïs qui accompagnent la modernité tardive. C'est le cas de Radical Orthodoxy, mouvement récent dont nous parle Denis Sureau. La force de ce mouvement œcuménique provient de ce que justement il déconstruit la sécularisation et rejette toute sacralisation de la laïcité, pour prendre un terme français. La lutte contre le nihilisme moderne ou contemporain s'entreprend par la récusation de l'humanisme athée, considéré comme aussi peu humaniste que possible. On constate chez les écrivains de Radical Orthodoxy le même rejet du dualisme traditionnel que l'on trouve dans les pensées de l'écologie. Nous avons là, sinon un monisme, au moins une pensée de la participation qui s'apparente à une recherche de communion. Avec cohérence, c'est logique, ce courant est platonicien, c'est-à-dire antidémocratique et antilibéral, très opposé à l'individualisme. Ici, on aperçoit les liens ou les retrouvailles déjà vécues, encore très probablement à venir, entre les courants chrétiens et l'écologie, à noter l'apparition récente de l'expression « écologie intégrale ». Par ailleurs, les religions traditionnelles ont cessé de croire que chaque fois que la science progresse, elle perd un miracle. Pendant les deux derniers siècles, on a pensé pouvoir expliquer la foi avec la raison scientifique. Aujourd'hui, parce que les époques se jettent toujours trop brutalement du côté où elles ne se sont pas encore égarées, certains pensent qu'on pourrait expliquer la science avec les récits de la foi. Aussi, les religions doivent-elles entamer avec la science un débat sans concession ni complexe et refouler aux marges, à vrai dire non sans mal, ceux qui arguent des excès des Lumières pour défendre des thèses ténébreuses. Paul Clavier nous a montré ce que notre temps peut répondre au créationnisme et comment la création peut trouver sa place au sein de la science moderne et à la fois au sein de l'émancipation des Lumières. Sixième étape. Des théologies sauvages se développent. Des sagesses voient le jour comme en remplacement. Nous nous indianisons. Peut-être la franc-maçonnerie devrait-elle être considérée comme la première religion de substitution répondant au vide laissé par l'athéisme moderne. C'est cette question que j'ai posée à Jérôme Roussel-Lacordaire, qui donnera sa conférence en décembre. Le zèle de cette institution a donné du sens à la vie. Ses allures d'église avec ses rites et ses grands-messes manifestent une fois encore le besoin humain de religion que Robespierre lui-même avait bien compris. En tant que telle, elle ressemble d'abord aux sectes d'initiés en raison de son culte pour le secret, par ailleurs, j'ose le dire, tout à fait antidémocratique. On peut probablement considérer l'art contemporain comme un sacré de substitution, dont Aude de Kéros nous a dit qu'il se donne comme un sacré numineux, c'est-à-dire un vertige provoqué par le néant, je la cite, le sacré d'un monde effrayé par l'absence des dieux. Les expressions sont multiples, de religion au marché noir, religion au pluriel, au moment même où la question religieuse est ridiculisée et considérée comme hors d'âge. Vous savez, le Dieu judéo-chrétien est un très grand chasseur d'idoles. Quand il s'efface, réapparaissent les idoles de toutes sortes, qui d'abord répondent au matérialisme ambiant et à la passion pour l'apparence. Top modèle, chanteur, idole du Nouvel Olympe, mais aussi qui répondent à l'idéologie la plus importante, l'écologie. Culte de Gaïa, mouvement des adorateurs de baleines, culte des dieux nordiques. Le meurtre de Dieu ne suscite pas un athéisme général et paisible, mais plutôt le renouveau des paganismes. L'émergence de courants panthéistes, aussi bien à travers l'écologie profonde qu'ailleurs encore, nous rappelle les intuitions post-révolutionnaires qui, dès la fin du XVIIIe siècle, avaient suscité la querelle du panthéisme annoncée par Jacobi. Tocqueville avait écrit d'ailleurs dans « La démocratie en Amérique » un chapitre bref et éblouissant sur le panthéisme comme seule religion convenant à la démocratie moderne. Pour Pierre Kay, notre époque est théologique en raison de tous les surgissements religieux qui suivent immédiatement et ironiquement la soi-disant disparition de la religion. Les marchés noirs de religion se déploient jusque dans des lieux dangereux et parfois criminels sous l'aile de l'autorité charismatique et abusive des gourous. Ce sont les sectes décrites par Jean-François Maillère qui prennent en charge les questions existentielles pour des personnalités souvent fragiles ou facilement soumises. En disant « des sagesses voient le jour, nous nous indianisons », avec ce dernier mot je fais référence à Husserl, l'époque contemporaine marquée par la montée des sagesses infirme, en effet, à mon avis, la prévision de Husserl, qui, dans sa description de l'universalisme européen, c'est dans la crise de l'humanité européenne et la philosophie, avait écrit, je cite, « Les autres peuples s'européanisent, mais nous ne nous indianiserons jamais. » D'un point de vue religieux, nous sommes en train de nous indianiser. Un courant puissant rappelle, à juste titre, que la spiritualité n'est pas l'apanage de la religion, et certainement pas de nos religions monothéistes, c'est l'apparition ou la réapparition, si l'on retourne à l'Antiquité, des sagesses, prospérant sur une déception face aux religions traditionnelles que nous décrit André Comte-Sponville. Septième étape, le judéo-christianisme qui a fait ce continent est récusé par les instances européennes. À ce stade, je regrette de n'avoir pas invité mon collègue et ami italien Roberto De Mattei, qui a beaucoup de choses intéressantes à dire sur la question. Je me contenterai d'évoquer trois événements. Lors de l'élaboration du projet de Constitution européenne, la question de l'affirmation des racines chrétiennes de l'Europe vient au débat du Conseil européen. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grèce, la Pologne se déclarent favorables à cette mention. Jacques Chirac s'y déclare défavorable, entraînant la Belgique et la Suède. Trois pays vont imposer leur vue à tous les autres, ce qui indique bien la force de la pression dans le sens d'un escamotage du religieux. En 2012, la Slovaquie, à l'occasion du 1500e anniversaire de la mission Cyril et Méthode en Grande-Moravie, frappe à l'effigie de ses saints la face nationale de sa pièce de 2 euros. Aussitôt, la France, suivie de la Commission, exige que soient effacées les auréoles et les croix de ses saints. Une révolte de l'opinion publique slovaque décidera le gouvernement de ce pays à ne pas obtempérer. Lorsque Viktor Orban fit adopter une nouvelle constitution pour la Hongrie avec un préambule soulignant, je cite, « la vertu unificatrice de la chrétienté pour la nation hongroise », alors l'affaire donna lieu au Parlement européen à des débats littéralement hystériques. Comprenons-nous bien. Il est vrai que la chrétienté, au sens de la culture européenne dominante, a bien sûr disparu. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, il s'agit de dire qu'elle n'a jamais existé, comme lorsqu'un régime efface ses ennemis sur la photo de la fondation du parti. Éteignez, s'il vous plaît, vos téléphones portables quand vous entrez dans la salle de conférence. Mettez vos portables sur le mode avion. Oubliez vos conversations privées que vous reprendrez tout à l'heure. Éteignez, s'il vous plaît, vos croyances religieuses quand vous entrez dans la classe, dans l'hémicycle, dans la salle de conférence. Mettez Dieu sur le mode avion. Il n'a rien à voir là-dedans. Vous reprendrez vos conversations privées avec lui quand vous en aurez fini avec les choses importantes. Et pourtant, La religion de nos origines n'a-t-elle pas structuré notre continent au plus profond ? N'est-ce pas elle qui fomente le régime de la vérité et la dignité de la personne, la science, l'universalité, la liberté, la démocratie ? Donc, tout ce qui nous fait ? Nos dirigeants d'Europe de l'Ouest s'imaginent-ils que c'est par ce vide assourdissant qu'ils répondront à la propagation de l'islamisme ? 8e étape. L'islam s'implante sur nos dénis et nos décombres. Nos deux conférenciers musulmans insistent chacun sur une caractéristique de l'islam. Mohamed Amir Moïsi souligne l'importance de la violence dans le processus d'installation et de consécration de cette religion, la longévité multiséculaire des conflits internes et fratricides. Il rappelle l'intensité et la violence des persécutions menées contre les chiites minoritaires. Ramin Kamran décrit ce qu'il appelle, je cite, « une culture de l'autorité, dans laquelle une réforme ne peut venir que du pouvoir ». Khomeini, par exemple, dit-il, fit des réformes, même si elles allaient, c'est lui qui parle, dans le sens d'un type de régime fasciste. La protestantisation de l'islam, attendue avec ferveur et naïveté par les Occidentaux, n'est peut-être pas pour demain. Il est vain de croire, nous dit Rémi Brague, que l'islam pourrait s'instaurer comme religion de remplacement dans un Occident défait par l'incroyance. Pendant que l'islam est la religion du livre, le christianisme est la religion du logos, c'est-à-dire de l'interprétation, œuvre de la liberté personnelle et de la conscience personnelle. Pendant que l'islam est un savoir, donc ignorant la tolérance, le christianisme est une foi. Pendant qu'Israël signifie « celui qui a lutté victorieusement contre Dieu », en langage vernaculaire, islam signifie « soumission ». L'Occident n'est pas seulement la terre du judéo-christianisme, mais, à vrai dire surtout, la terre de la chrétienté, c'est-à-dire d'une culture spécifique caractérisée par la séparation des glaives, l'abolition de l'esclavage, l'émancipation des femmes. L'islam et le judéo-christianisme engendrent deux cultures radicalement différentes. Elles peuvent se reconnaître et se respecter, on l'espère. Elles ne peuvent pas se fondre ni se remplacer. Le christianisme souffre par sa faute, nous dit Pascal Gollnisch, par son renoncement, sa honte d'être lui-même. Il dénonce la tiédeur de l'Occident et des instances internationales qui laissent l'islamisme radical s'étendre en abdiquant la défense de la laïcité. Par quelle lâcheté, par quelle coupable démagogie, l'UNESCO a-t-elle pu enregistrer une déclaration islamique des droits de l'homme, qui est à la fois une incohérence dans les termes, vous le voyez bien, et dans son contenu, une injure à la notion même de droits de l'homme. Ce qui nous perd est probablement une anémie de l'âme. 9e et dernière étape et conclusion, alors vient le temps des agents secrets de Dieu. Un ami juif me dit un jour, ce sont nos rites, ce sont des rampes dans le noir. C'est bien ce que nous dit Raïm Korsia. Dans un moment historique de désaveu et de désespoir, les rites nous arriment à notre histoire et maintiennent, en attendant la fin de la glaciation, nos références exténuées. Les rites retiennent ensemble des communautés dispersées par le doute et la négligence. J'entends négligence au sens latin du terme qui signifie le détachement des liens, négligence. En attendant que nos références retrouvent les raisons profondes de l'alliance. Pour exactement le contraire, au fond, de la négligence. Vous ne serez pas étonné que je termine par la conférence d'Emmanuel Gabellieri, c'est-à-dire par Simone Veil. Et que je termine par cet auteur et par cette conférence. Juive et récusant d'une certaine manière sa judéité, passionnée par le combat social, au point d'ailleurs qu'elle faillit, comme vous le savez, s'inscrire au Parti communiste, agnostique peut-être, sa relation avec la foi religieuse est tellement complexe que nous ne savons pas s'il est vrai qu'elle demanda le baptême sur son lit de mort, après une conversion étrange qu'elle raconte sous forme de poème. C'est à travers ces contradictions et ces non-dits qu'elle apporta un immense tribut à la chrétienté anémiée et de tous côtés remise en cause. Le texte superbe qu'elle a écrit à Londres dans ses derniers moments et auquel les éditeurs ont donné le nom de l'enracinement, puisque c'était des papiers épars, est devenu un classique et son influence ne tarit pas. Si le besoin d'enracinement est humain et universel, ses expressions et ses médiations varient selon les cultures. En même temps, ce texte est l'affirmation caractéristique de la culture occidentale judéo-chrétienne incarnée, que ce soit dans la description de la personne, de la conscience, de la responsabilité personnelle, ou même, voire même dans la nécessité de l'effort. Il s'agit toujours de défendre ce qu'on peut appeler la chrétienté, mais attention, sans le dire. Le message de Simone Veil est, pour ainsi dire, clandestin. Et c'est ainsi qu'il s'impose. Nul ne fait autant pour défendre la religion de ses pères, de nos pères, que cette femme exceptionnelle qui disait qu'elle dérangeait Dieu. Dieu est aujourd'hui une figure controversée, instrumentalisée, honnie. En son nom et en ce moment même, on massacre dans Paris. Pendant que d'autres le veillent comme une lueur ténue à l'abri des regards assassins. J'ai voulu partager avec vous ce moment de tempête et je vous remercie de m'avoir écoutée.